bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour vous présenter le monde aujourd'hui en direct de Washington. Au micro, Nanit Talani. Au sommaire, à l'ONU, la Côte d'Ivoire plaide pour un soutien aux pays sahéliens en crise. Au Sénégal, la chasse au bien malaki s'accélère. Au Nigeria, appel à des manifestations pour dénoncer la politique économique d'Ahmed Tinubu. Corruption à New York, Eric Adams, le maire, accusé de pot de vin et de fraude électorale. État d'urgence en Floride, l'ouragan Helene provoque des inondations et des évacuations massives. En magazine, la corruption rampante fait perdre au Cameroun 114 milliards de francs CFA en 2023.
Ce montant est en augmentation très nette par rapport à l'année 2022, où il était de 4,623 milliards.
Côté économie, sommet africain sur l'investissement au Maroc en octobre. Éliminatoire de la CAN 2025, Bertrand Traoré et Issoufou Dayo réintègrent la sélection burkinabé. Ça sera en sport dans environ 10 minutes. En attendant, voici le journal. À l'Assemblée générale de l'ONU, la Côte d'Ivoire dit s'employer à aider les pays de la région concernés par le terrorisme à renforcer leurs capacités. Lors de la troisième journée du débat général, le vice-président ivoirien a appelé à la mobilisation de la communauté internationale en faveur des populations du Sahel. On fait le point avec Alexandrine Rolognon à New York.
Thiemou Kokone s'est alarmé de la multiplication des tensions géopolitiques et des conflits armés avant de mettre en garde contre un embrasement généralisé. S'exprimant sur le terrorisme, il a affirmé que c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui est confrontée à cette menace, avant d'ajouter que la Côte d'Ivoire accueille dans les meilleures conditions possibles plusieurs milliers de ressortissants de pays sahéliens voisins qui fuient la violence des groupes armés.
Fidèle à ses valeurs et à sa tradition d'hospitalité, la Côte d'Ivoire accueille dans les meilleures conditions possibles plusieurs milliers de ressortissants des pays sahéliens voisins qui fuient la violence des groupes armés. Pour sa part, la Côte d'Ivoire met à la disposition de l'ensemble des pays l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville afin de les aider à renforcer leurs capacités en matière de lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes.
Le vice-président de la Guinée équatoriale, Théodorin Obiang Nguema, s'est aussi exprimé sur la situation au Sahel, où les pays, à l'instar de certains États du Sud, subissent, selon lui, des interférences, des pressions et autres blocus dont le seul objectif est de provoquer la déstabilisation et de paralyser leurs efforts pour atteindre la prospérité. Alexandrine Honognon, VOA Afrique, New York.
Le maire de New York, Eric Adams, a été arrosé en secret de pot de vin pendant des années, a accusé hier le procureur de Manhattan en annonçant l'inculpation du maire très fragilisé à la tête de la plus grande ville des États-Unis. Le point avec Rosine Munezero.
L'acte d'inculpation du parquet fédéral de Manhattan, qui a été dévoilé hier, mentionne des faits de fraude électronique, sollicitation illégale de contribution de campagne électorale auprès d'une personne étrangère et l'acceptation de pots de vin de la part d'un officiel turc. En échange, Eric Adams aurait usé de son influence sur un dossier de construction d'un gratte-ciel abritant la mission de la Turquie auprès des Nations Unies et son consulat général. Il a caché au public qu'il était arrosé en secret de cadeaux, a accusé le procureur fédéral de Manhattan, Damian Williams, lors d'un point de presse. Le maire a répondu qu'il était impatient de se défendre après avoir clamé son innocence lors d'un point de presse devant sa résidence, perquisitionné tôt hier matin. Mercredi, l'élu de New York à la Chambre des représentants avait appelé Eric Adams à la démission pour le bien de la ville. Ces appels se sont multipliés de la part de plusieurs autres élus démocrates, mais l'ancien capitaine de police de New York, africain-américain élu en 2021, a rejeté tous les appels à la démission et promet de se battre.
L'ouragan Helene a touché terre hier en fin de journée en Floride, ici aux États-Unis toujours, apportant avec lui des inondations. Les précisions de Dilidico.
Avec des vents de 195 km/h, Hélène s'est renforcée en ouragan de catégorie 3 sur une échelle de 5 selon le Centre américain des ouragans. Il a touché terre dans la soirée dans la région de Tallahassee, la capitale de l'État. Personne n'a vu une tempête d'une telle ampleur de mémoire récente, a averti hier matin le gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Le risque de submersion marine inquiète particulièrement avec une montée des eaux qui pourrait atteindre 6 mètres par endroit sur les côtes. Il s'agit d'un scénario auquel il est impossible de survivre, qui s'accompagnera de vagues destructrices pouvant balayer des maisons et déplacer les voitures, a alerté Mike Brennan, le directeur du NHC. L'état d'urgence a été imposé dans la presque totalité des 67 comtés de Floride. Dès mercredi, les autorités ont mis en place un partenariat avec le service Uber afin de transporter gratuitement vers des refuges ceux qui doivent être évacués. Quelques 3500 soldats de la garde nationale sont mobilisés. Plusieurs aéroports, notamment ceux de Tallahassee et de Tampa, sont fermés. Au-delà de la Floride, la Géorgie, le Tennessee et la Caroline du Sud verront aussi les effets de l'ouragan, notamment la ville d'Atlanta et ses quelques 5 millions d'habitants.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit rencontrer ce vendredi à New York l'ancien président américain et candidat à la Maison-Blanche Donald Trump, une entrevue délicate au vu des multiples critiques du républicain quant à l'aide américaine massive à l'Ukraine. Comme vous le savez, Zelensky a réclamé de me rencontrer. Je vais le rencontrer demain matin vers 9h45 à la Trump Tower à New York, a annoncé Donald Trump hier lors d'une allocution devant la presse. Les républicains s'en étaient pris directement aussi aux dirigeants ukrainiens, l'accusant de refuser de conclure un accord avec Moscou.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Guinée, la présidence a démenti hier les rumeurs de coups de feu près du palais présidentiel à Conakry, qualifiant ces informations de fausses et fabriquées. Malgré des rapports locaux évoquant la présence de forces spéciales et des appels à évacuer le district de Kaloum, le gouvernement a assuré que la situation était calme. Il a encouragé la population à reprendre ses activités normalement dans un communiqué publié sur X et lu à la télévision d'État. La présidence a par ailleurs dénoncé la propagation de ces rumeurs qui ont créé un climat de panique dans la ville. Au Sénégal, les choses s'accélèrent dans la traque des biens mal acquis. Les arrestations de membres et proches de l'ancien régime ont commencé et le gouvernement dresse un tableau sombre de la gestion du pays par le régime de Macky Sall. La correspondance de Wani Johnson Sambou.
En conférence de presse hier pour faire l'état des lieux des finances publiques, le Premier ministre a fait de grosses révélations et promet des enquêtes. Ousmane Sonko soutient par exemple que la politique d'endettement effrénée du régime sortant a, je cite, « donné lieu à des ressources non transparentes et favorables à une corruption généralisée » tout en dénonçant ce qu'il qualifie de méthodologie pour détourner en masse les deniers publics. Nous étions loin de nous imaginer que les choses étaient aussi catastrophiques, regrette le chef du gouvernement qui accuse ses prédécesseurs d'avoir menti aux Sénégalais. Et le ministre des Finances détaillait les propos d'Ousmane Sonko avec des chiffres ahurissants. Abdourahmane Sarr estime que la dette publique du Sénégal sur la période 2019-2023 a été sous-évaluée de près de 10% du PIB. Idem pour le déficit budgétaire annoncé à une moyenne de 65,9% alors qu'il avait atteint 76,3%. Une situation catastrophique dont le ministre de la Justice prévient qu'elle ne restera pas impunie. Wahani Johnson Sambou Dakar pour VOA Afrique.
Au Nigeria, des organisations de la société civile ont appelé hier à une nouvelle série de manifestations nationales le 1er octobre pour dénoncer la politique économique du président Bola Ahmed Tinubu. Claire Morin-Gibourg.
Les organisateurs réclament une baisse des prix du carburant et des denrées alimentaires, ainsi que des tarifs de l'électricité et la libération des manifestants arrêtés en août. Les manifestations du mois d'août étaient une répétition générale, celle du 1er octobre en est la suite, a déclaré Taiwo Hassan, l'un des organisateurs de cette manifestation prévue mardi prochain. En août dernier, des manifs similaires ont été organisées dans les principales villes du pays. Au moins 21 personnes ont été tuées selon Amnesty International et 700 manifestants arrêtés selon la police. Depuis son arrivée au pouvoir l'année dernière, M. Tinubu a mis fin à la subvention des carburants et a libéré le Naira pour relancer l'économie. Il y a moins de 2 ans, un litre de carburant ne coûtait pas plus que 200 Naira, a indiqué M. Taiwo. Alors qu'il est désormais affiché à plus de 850 naira dans les stations les moins chères du pays. Selon M. Taiwo, la conséquence directe de cette augmentation est que la vie est devenue insupportable pour de nombreux Nigérians.
Voilà pour les nouvelles. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Le Maroc s'apprête à accueillir un sommet majeur sur l'investissement dans les infrastructures. Bannerman Energy reporte sa décision sur une mine d'uranium en Namibie. Un nouveau master en aviation voit le jour grâce à un partenariat France-Nigéria. C'est notre page économique signée ce matin, Nathalie Barge.
Le Maroc va organiser le sommet africain sur l'investissement dans les infrastructures partenariat public-privé du 22 au 24 octobre 2024 à Casablanca. Les participants vont explorer des modèles de financement innovants. Le Maroc mettra en avant sa stratégie portuaire 2030. L'Afrique du Sud évoquera ses plans dans le secteur ferroviaire de fret et la Côte d'Ivoire fera le point sur le corridor Abidjan-Lagos, entre autres projets des pays invités. Bannerman Energy a reporté à 2025 la décision finale d'investissement pour la construction de la mine d'uranium Etango en Namibie, qui était prévue fin 2024. L'entrée en production ne pourra donc pas avoir lieu en 2027. Les discussions se poursuivent avec les investisseurs. Un financement par la dette ou une co-entreprise sont notamment envisagés. L'École nationale de l'aviation civile de France et l'Université africaine d'aviation et d'aérospatiale du Nigeria ont annoncé cette semaine le lancement d'un master en aviation et aéronautique. En février, les deux écoles avaient établi une collaboration pour renforcer la qualité des formations des étudiants, enseignants et professionnels de l'industrie de l'aviation au Nigeria. Elle prévoit aussi un programme d'échange pour faciliter le transfert de connaissances.
Dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025, le sélectionneur des étalons au Burkina Faso a annoncé le retour tant attendu de Bertrand Traoré et Issoufou Dayo. Parallèlement, la Supercoupe CAF se déroulera en Arabie Saoudite, opposant les géants égyptiens Al Ahly et Zamalek. Voici notre rendez-vous sportif avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba, bonjour à tous.
Bonjour Namit, bonjour à tous.
Retour en sélection burkinabé pour Bertrand Traoré et Issoufou Dayo.
Oui, le nouvel attaquant de l'Ajax Amsterdam, Bertrand Traoré, et le capitaine du club marocain de la Renaissance sportive de Berkane, Issoufou Dayo, ont été appelés par le sélectionneur des étalons du Burkina Faso. Les deux n'avaient plus été sélectionnés depuis la CAN en Côte d'Ivoire. Brahma Traoré a dévoilé hier sa liste des joueurs convoqués pour la double confrontation contre le Burundi, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, respectivement le 10 octobre et le 13 octobre en Côte d'Ivoire. Comment expliquer ce retour du capitaine Traoré et son adjoint Dayo en sélection ? Élément de réponse avec Bernabé Cabré, journaliste à Radio Omega.
Officiellement, aucune raison n'a jamais été donnée sur l'absence de Bertrand Traoré et Issoufou Dayo en sélection nationale, mais plusieurs sources dignes de foi parle de problèmes d'indiscipline qui remonterait à la CAN en Côte d'Ivoire, raison pour laquelle le coach Brahma Traoré a décidé de les écarter depuis donc son arrivée à la tête de l'encadrement technique des étalons du Burkina Faso. Mais aujourd'hui, le Burkina Faso est dans une nouvelle phase avec l'élection il y a quelques semaines d'Oumarou Sawadgo, un colonel major à la retraite à la tête de la Fédération burkinabé de football. Il a parlé de consensus et aujourd'hui, il n'y a pas de raison en tout cas qu'un joueur soit écarté pour quelques raisons que ce soit. Parce que lorsque vous regardez les deux joueurs, Dayo ou Bertrand Traoré, sur le plan sportif, il n'y a pas de raison qui puisse justifier leur absence en équipe nationale du Burkina Faso. Aujourd'hui également, on s'est rendu compte que la présence de ces deux joueurs pourrait être un atout de taille pour l'équipe nationale qui a pris 4 points lors des deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2025 et les deux matchs à venir contre le Burundi sont décisifs puisque le Burkina Faso, s'il prend bien sûr 6 points sur 6, pourrait d'ores et déjà valider son billet pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Une autre raison, on peut citer en tout cas la pression du public sportif burkinabé parce qu'aujourd'hui, le public sportif se dit qu'il n'y a pas de raison qui puisse empêcher Bertrand qui joue la Ligue Europa et Issoufou Dayo qui est l'un des joueurs les plus expérimentés du championnat marocain d'être présent en équipe nationale.
Benabé Cabré, journaliste à Radio Omega, joint à Ouagadougou.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nanit Talani de retour, voici nos dossiers du jour. Au Cameroun, la corruption fait encore des ravages d'après le rapport annuel présenté ce jour par la Commission nationale anticorruption. D'après la CONAC, l'État du Cameroun a subi un préjudice financier du fait des actes de corruption et des infractions assimilées de plus de 114 milliards de francs CFA en 2023. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jules Ntap.
Le montant du préjudice financier subi par l'État de plus de 114 milliards de francs CFA a été établi sur la base des investigations menées par la CONAC, les décisions du Conseil de discipline budgétaire et financière et celles rendues par le tribunal criminel spécial compétent en matière de détournement de fonds publics. Dieudonné Massigams, président de la Commission nationale anticorruption.
Ce montant est en augmentation très nette par rapport à l'année 2022, où il était de 4 milliards 623 418 910 francs CFA. L'augmentation enregistrée, qui est de 109 412 503 584 francs CFA, s'explique par le nombre de dossiers ayant donné lieu aux missions d'enquête de la CONAC, à savoir 16, le nombre de décisions rendues par le CDF et le TCS, 83 au total, la nature des affaires ayant donné lieu aux missions d'enquête de la CONAC ainsi qu'aux décisions du CDBF et du TCS.
Le rapport n'a pas fait mention des affaires Glencore et Bourbon, dans lesquelles des agents publics camerounais de deux sociétés des hydrocarbures et de la Direction générale des impôts ont été cités d'avoir perçu des pots de vin. Ce que regrette Arinjo Mangabel, président de Transparency International Cameroun.
Sans désemparer, nous allons continuer à nous battre jusqu'à ce que, au moins, ces deux affaires. Mais le Cameroun n'a encore rien fait, ce qui nous désole. La SNH nous a informé que le TCS avait déjà été saisi. Nous n'avons pas eu la preuve de cette saisine.
Sur la question, le président de la CONAC invite les Camerounais à plus de patience.
La CONAC a déjà fait des investigations et a déjà orienté certains de ses résultats qu'elle a obtenus à des secteurs qui doivent continuer à compléter des informations qu'elle demande et que l'institution en question également nous envoie des éléments qui vont nous aider pour que nous peaufinions ce rapport, qu'il soit finalisé et qu'il soit destiné aussi acquis de droits.
La corruption demeure galopante aussi dans le secteur éducatif, des transports, au niveau des collectivités territoriales décentralisées, au sein de l'administration territoriale pour la signature et la délivrance des documents officiels. Edith Flore Mimpo est architecte et évoque le cas des faux titres fonciers.
Si on a implanté une borne à l'endroit où ça ne devrait pas être, quand c'est une borne, on dit ok, c'est une faute, c'est une erreur. Quand c'est deux bornes, c'est une erreur. Mais quand ça devient récurrent, ça veut dire qu'il y a un problème de corruption derrière.
Le nombre de dénonciations reçues par la CONAC sur les allégations de corruption est en augmentation. Près de 10 000 agents publics ont été sanctionnés ou licenciés l'an dernier pour des pratiques de manquement à l'éthique. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
À Omdurman, la deuxième ville du Soudan, le marché autrefois florissant a été pratiquement détruit par près d'un an et demi de guerre. La VOA a eu un accès rare à la ville et a rencontré les habitants qui se souviennent de son ancienne gloire, alors que les combats font rage dans la capitale Khartoum, sur la rive opposée du Nil. Le récit est de Rosine Munezero.
Le marché d'Omdurman, le centre commercial de cette ville jumelle à Khartoum, en mars 2023, était plein de monde et de vie. Mais depuis, après 18 mois de guerre, il ne reste maintenant que la désolation et la destruction. Fouar Mustapha a fui la ville au début de la guerre. Il revient au marché pour la première fois.
Dans le passé, il n'était pas facile d'être ici à cause de la surpopulation. Tous les magasins étaient ouverts, tous les magasins étaient remplis de marchandises. Toutes nos mères et nos sœurs étaient ici. Je veux dire que la communauté soudanaise se rassemblait ici. Honnêtement, la guerre nous a changé, nous les Soudanais. C'est un test de Dieu.
Depuis le début de la guerre en avril 2023, les autorités militaires avaient interdit l'entrée dans cette ville à de nombreux journalistes. Mais en septembre, la VOA a obtenu un rare accès à Omdurman, qui est maintenant contrôlé par les forces armées soudanaises. D'ici, on peut entendre les coups de feu et tirs d'obus vers les positions tenues par les forces paramilitaires de soutien rapide, FSR, à Khartoum, à moins de 4 kilomètres. Le propriétaire de ce magasin de cosmétiques a refusé de donner son nom par crainte pour sa sécurité. Il explique que les commerçants se préparaient pour la grande fête musulmane de l'Aïd lorsque la guerre a éclaté.
Tous les magasins ont été touchés. Les tirs et les chaos ont commencé environ deux jours avant la fête de l'Aïd. Les gens travaillaient normalement et les marchandises pour la fête de l'Aïd étaient prêtes à être vendues.
Un an et demi plus tard, la guerre loin d'être terminée. Les multiples pourparlers de paix n'ont jamais abouti à une cessation des hostilités. Les groupes de défense des droits de l'homme et le gouvernement américain accusent les deux parties de crimes de guerre. De l'autre côté du Nil, le territoire contrôlé par les forces armées soudanaises est inaccessible à la plupart des journalistes. Les Nations Unies affirment que ce territoire est probablement en proie à la famine, mais c'est difficilement vérifiable à cause du manque d'accès. Mustapha souhaite simplement la fin de la guerre et le retour à la vie normale pour le peuple soudanais.
Que Dieu les dédommage et que les gens ne désespèrent pas. Si Dieu veut, un jour nous reviendrons et nous reconstruirons notre pays et le Soudan, si Dieu le veut.
De nombreux civils soudanais partagent cet espoir. Un rêve de paix presque insaisissable pour le moment.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le président Joe Biden se tourne vers l'Afrique au crépuscule de sa présidence. Devant les dirigeants du monde entier, il a fait du conflit soudanais une priorité et a annoncé qu'il se rendrait en Angola. Il a aussi approuvé l'ajout de deux sièges pour les pays africains au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le point avec Anita Powell, envoyée spéciale de la VOA à New York. Récit, Claire Morin-Gibourg.
Dans son discours d'adieu à l'Assemblée générale des Nations Unies mardi, le président Joe Biden a évoqué plusieurs fois brièvement le continent africain, rappelant aux dirigeants mondiaux les maux du régime d'apartheid, appelant à la fin du conflit soudanais et l'urgence de lutter contre une épidémie de Mpox en République démocratique du Congo. Mais ce sont peut-être ces deux petites phrases qui ont le plus marqué.
L'ONU doit s'adapter pour faire entendre de nouvelles voix et de nouvelles perspectives. C'est pourquoi nous soutenons la réforme et l'élargissement de la composition du Conseil de sécurité de l'ONU.
Depuis plusieurs années, les dirigeants africains réclament un siège permanent au sein du Conseil de sécurité. Mais les critiques soulignent que Washington ne soutient pas un élément essentiel à cette adhésion au Conseil de sécurité, c'est-à-dire le droit de veto. Cameron Hudson, membre du programme Afrique du Centre d'études stratégiques et internationales.
C'est vraiment, je pense, un projet inachevé de sa part, probablement plus de mots que de réalité. Franchement, le fait qu'il ait mis en garde en disant que les Africains ne devraient pas avoir le droit de veto lorsqu'ils obtiendront, s'ils l'obtiennent, des sièges permanents au Conseil de sécurité, franchement, les Africains se posent des questions.
John Fortier, chercheur à l'American Enterprise Institute, a déclaré qu'il était important que M. Biden utilise cette tribune pour appeler à la fin du conflit qui sévit au Soudan, mais doute que cet appel aboutisse à quelque chose sur le terrain.
C'est l'un des graves conflits qui n'a pas attiré l'attention du monde entier. Et je pense que le fait qu'il l'évoque a pour but de l'élever dans la conscience mondiale, mais pas encore de savoir comment nous allons y mettre un terme.
Et l'annonce de la visite de M. Biden en Angola le mois prochain lui permet de tenir sa promesse de se rendre sur le continent. Mais une fois encore, Cameron Hudson se demande comment cette visite, longtemps retardée, va se concrétiser.
Coming as it does.
Venant comme elle le fait à la toute fin de son administration, sans beaucoup de choses à célébrer en termes d'engagement en Afrique, je pense que la visite sonnera plutôt vide.
Il reste à Joe Biden 4 mois de présidence. Pourra-t-il convaincre le continent qu'il ne s'agit pas seulement de paroles bien intentionnées ? Seul le temps pourra y répondre.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui et surtout merci à Georges Léonard Sagno pour la mise en onde avec l'assistance de Calvin Fowler à la console. Nanette Talani était à la présentation. Merci également à toute l'équipe de la rédaction de VOA Afrique. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com et sur nos plateformes Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. Excellente journée à toutes et à tous.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Clédou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Onde Courte. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.